Hello, everybody. Thank you for being here. I'm sorry, I will speak in French too because it's much easier for me. And bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc, je vais vous parler d'un animal qui est beaucoup moins spectaculaire et grandiose que ce qu'on a eu jusqu'à présent avec les grands gibiers. Mais ça reste un animal qui a son rôle, un rôle forestier qui, justement, ce que je vais m'efforcer de vous présenter, n'est peut-être plus tellement si forestier que ça. Donc, je me base sur un corpus notamment d'entretien que j'ai mené auprès de protecteurs des hérissons en Île-de-France et d'enquêtes sur des forums, par des entretiens téléphoniques, emails, etc. J'ai interviewé également des spécialistes internationaux du hérisson, parce qu'il en existe beaucoup. Et puis là, notamment pour cette question, je me suis intéressé aux livres pour enfants et à toute la littérature pour enfants et au folklore. Mais disons, le folklore dans ce domaine est assez pauvre. Puis il y a effectivement quelques aspects de préhistoire, d'archéozoologie, d'histoire autour du hérisson. Alors, ce qui commence en fait plus que le hérisson animal forestier, c'est que le hérisson est assez curieusement, peut-être selon nos points de vue, associé aux arbres. Alors, la grande référence en la matière, c'est Pline l'Ancien, qui décrit un hérisson qui porte des pommes sur ses piques et qui les ramène à son nid pour nourrir ses petits. Et c'est un thème qui se retrouve dans notamment le Physiologus, dans beaucoup de bestiaires, dans toute l'Europe. C'est quelque chose qui a vraiment marqué l'histoire du hérisson jusqu'à il y a très peu d'années finalement. Et alors c'est la pomme, ça peut également être la figue, ça dépend un petit peu de la plante locale, si on peut dire. Donc on retrouve ces idées de hérisson associées à l'arbre. Notamment avec toutes ces figurines qu'on voit actuellement, toutes ces figurines modernes, notamment les figurines qui portent des champignons, des feuilles, enfin je pense que vous les avez tous vus, les stumps, c'est les souches. Donc beaucoup justement autour de ces idées de souches, des fruits. Et puis à droite, vous avez un exemple particulièrement complet, je crois qu'il vient du Danemark, où vous avez vraiment le hérisson qui est dans la forêt, qui va chercher des champignons, qui porte des pommes sur le dos. À côté, il y a un résineux. À droite, il y a un feuillu. Et puis, il y a une souche et il y a les petits champignons en dessous. Alors, dans les motifs soit imprimés, soit des figurines pour enfants, on retrouve vraiment toujours, notamment dans les choses pour les enfants ou pour le grand public, un petit côté un peu mièvre, hein, toujours, je suis désolé de vous imposer ça, en guillemets, mais on retrouve toujours ces apparences de hérissons qui portent plein de choses sur le dos, qui reviennent toujours à l'idée de Pline. L'association à droite avec la Manitou mouche, donc Amanita muscaria, for the English people, the association between the hedgehog and the Amanita muscaria, which is also known by the Germanic for being, how you say, a chance mushroom. Donc c'est un champignon qui porte chance pour les germaniques notamment. Et évidemment, l'idée de champignons, ça fait toujours référence à la forêt. Le champignon est très fort associé à la forêt dans à peu près toutes ces représentations. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on s'intéresse aux représentations qui sont faites pour le grand public, mais par des spécialistes, on retrouve également le hérisson dans la forêt. Alors on ne le voit pas très bien, je vais quand même l'utiliser ici. Là, il est ici, et puis il est toujours associé avec son Amanitou mouche, et puis il est ici en train de manger un asticot, quelque chose comme ça. Donc le hérisson est systématiquement montré dans la forêt. Ici, c'est un manuel Comment se comporter dans la forêt qui a été édité par toutes les grandes associations de protection de la nature ou assimilées en Suisse. Et à l'intérieur, il y a notamment ProNatura, qui est une association de protection de la nature très sophistiquée, qui a des spécialistes parmi eux. Donc on peut penser que même pour eux, effectivement, c'est un animal forestier. Donc, ça, j'en parlerai pas plus. Je pense que ça sera peut-être abordé par d'autres personnes. Mais effectivement, il y a la question de qu'est-ce que la forêt. Donc, pour le hérisson ici, c'est la même chose. Dès qu'on est dans l'arbre, on peut passer à la forêt, qui est le groupement. On verra un peu après. Mais effectivement, il y a tous les stades, entre guillemets, intermédiaires entre la lisière, la haie, qui est une sorte de remplacement de la forêt, la souche, et qui est souvent très présente et qui diminue cet impact de forêt menaçante. Donc c'est un grand bloc, mais disons, est-ce que le hérisson vit dans la forêt? Donc on peut se demander, par exemple, en regardant ce qui se fait dans la littérature des biologistes, les résultats scientifiques des biologistes, donc ce qu'on montre essentiellement, c'est que le hérisson ne vit pas dans la forêt. Il ne vit pas, les densités sont minuscules, on n'en trouve quasiment pas. Dès qu'ils sont suivis par télémétrie, en fait, ils se déplacent assez peu dans la forêt. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent effectivement les lisières. Donc, potentiellement, ils vont beaucoup suivre la lisière de la forêt, ou alors ils vont suivre les routes forestières ou comme ça. Il y a des exemples qui montrent qu'il y en a dans les forêts, mais souvent, ce sera des forêts un peu plus allégées, enfin plus petites, des bois, si on peut dire, ou alors où il y a un très fort sous-bois. Et puis aussi, ils vont potentiellement facilement aller hiberner dans la forêt, surtout dans les premiers mètres ou dizaines de mètres de la forêt. Et puis par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de hérissons de nos jours dans les zones urbaines, enfin les zones périurbaines et les zones suburbaines. Donc c'est beaucoup plus attrayant pour eux. Alors il y avait la question du biais d'échantillonnage, parce que trouver un hérisson dans une forêt alors qu'il sort la nuit, c'est relativement difficile. Enfin c'est tout petit, enfin on ne le voit pas tellement, et puis dans la forêt on n'y va pas tellement. Mais même en utilisant des chiens, qui sont dressés, par exemple, pour chercher des hérissons, les scientifiques n'en trouvent pas. Donc ça, c'est un hérisson dans le jardin, ben, c'est là qu'on les observe le plus, et c'est là que le public et les enthousiastes, c'est les passionnés, si on peut dire. C'est dans ce cadre que j'inclus les protecteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on les voit beaucoup plus facilement dans la forêt, ils sont attirés par la nourriture. On les observe parce que forcément, quand on a un jardin, un petit bout de jardin, ben on regarde ce qui se passe. Il y a la lumière, donc on voit facilement ce qui se passe, on entend. Si on a un chien, il peut aboyer. Et puis, alors justement, cette explication, pourquoi est-ce qu'on trouve surtout des hérissons dans le jardin? Parce que les études scientifiques montrent que les densités sont absolument maximales dans les zones périurbaines et les zones suburbaines. Donc pour les scientifiques et les spécialistes de hérissons, ils diront bah effectivement ça remplit des besoins écologiques. Il y a plus à manger, il y a moins de prédateurs, il y a plus d'abris. Bon, il y a aussi des effets secondaires. Par exemple, c'est plus pollué, il y a plus de population, donc il y a plus de parasitisme. Et ils disent bah, le hérisson c'est un commensal de l'homme, donc il aime être au contact de l'homme. Enfin, il aime, ça lui profite. Et puis, par contre, les protecteurs des hérissons, eux, ils ont une lecture qui est différente, qui est une lecture de dire, ah ben, l'homme détruit, enfin, comme beaucoup, hein, l'homme détruit la nature. Donc, il détruit les animaux, il détruit le territoire de vie des animaux. Donc, eux, ils se placent dans une éthique qui est très répandue, ils veulent restaurer en quelque sorte cet équilibre. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que le hérisson, ben, on est venu, on a Ah ben oui, j'aurais dû dire, pour eux, en fait, la forêt, c'est l'endroit d'où vient le hérisson, c'est sa place originelle, parce qu'ils se basent justement sur toute cette imagerie du hérisson de la forêt. Donc ils disent, ah ben l'homme vient, le hérisson vit dans sa forêt, c'est naturel, l'homme vient, il coupe, le hérisson perd sa sauvagerie et tout se transforme dans ce mythe qu'ils ont. En bocage, c'est-à-dire un endroit anthropisé, mais un endroit où il y a une symbiose entre la nature, si on peut dire, et puis l'homme. Et puis, paf, voilà l'urbanisation qui rend le hérisson malade et qui détruit son mode de vie traditionnel. Et alors, il perd en quelque sorte son côté sauvage pour se rapprocher des jardins. Tame, ça veut dire, comment on dit, familier, c'est un peu exagéré en français. Et dans le jardin, c'est là qu'il va trouver en fait un havre de paix. Pour lui, c'est son dernier refuge. C'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, si je reviens juste derrière. Donc, effectivement, la forêt, c'est le paradis perdu du hérisson, selon ses protecteurs, ou on pourrait carrément dire l'Éden. Et eux, justement, leur action se fait dans le jardin, ce qui n'est pas le sujet aujourd'hui, je sais bien, mais eux veulent faire un nouvel Éden ou un Éden en guillemets de substitution pour le hérisson. Donc pour montrer, ça passe par le nourrissage, par la pose de nichoirs, par une spécialisation de l'espace. Par exemple, avec ici c'est une zone un peu plus sauvage, ici c'est une zone plus aménagée, où il y aura justement les nichoirs, par la pose de choses de barrières pour empêcher par exemple qu'ils se noient. Donc ça c'est ce que j'appelle un jardin hérisson. Et puis, pour sortir des protecteurs des hérissons, je me suis aussi intéressé justement aux éléments des contes pour enfants, parce que les contes pour enfants peuvent montrer le fond culturel et aussi peuvent être l'occasion d'une réflexion philosophique sur les choses, notamment pour tout ce qui est géographique. Alors, il y a une chose qui est très forte chez le hérisson, c'est cette idée d'hibernation. Et alors, il y a beaucoup de récits pour enfants qui prennent un petit hérisson, un enfant souvent, enfin un jeune, qui ne veut pas hiberner. Genre, c'est sa première hibernation, il ne veut pas dormir. Donc, il va aller un peu partout en cherchant des copains, etc. Et justement, c'est l'idée, par exemple, dans ce livre, qu'il veut découvrir l'hiver. Et l'hiver, c'est le tabou ultime pour l'hérisson, parce qu'il peut mourir s'il n'hiberne pas. Donc ce qui va se passer dans cette histoire, c'est que le hérisson part de la forêt, une sorte de lisière de forêt, se rapproche des habitats humains en passant par l'habitat rural, donc un peu la même idée qu'on avait avant. Et puis en cours de... pendant qu'il fait ce parcours, il va avoir plein de dangers, il va se faire attaquer par un renard, il va dormir avec un lièvre parce qu'il n'aura nulle part pour passer la nuit, etc. Donc il va apprendre des choses. Et il va se retrouver en contact dans les jardins, dans la ville. Il va se retrouver en contact de l'homme. Il va rouler en boule dans la neige et se retrouver comme tête de bonhomme de neige. Et ils vont même lui planter une carotte dessus, etc. Donc il y a un aspect très ridicule de cette situation qui montre dans cette histoire, entre guillemets, que peut-être aller trop loin, d'en vouloir faire autre chose, ne pas faire comme les autres, ça amène en quelque sorte à être complètement hors de place ou même ridicule, voire grotesque au point. Donc lui, il va retourner, parce que là, il sera vraiment dans la neige, on sera au cœur de l'hiver, il va retourner à la forêt, retourner chez lui. Donc la saison va continuer à avancer dans le récit, il va à nouveau être confronté à des dangers, mais va retrouver petit à petit, le printemps arrive, et va retourner jusque dans sa famille, si on peut dire, enfin dans la forêt, où il va effectivement s'endormir. Et là, il aura retrouvé une sorte de rythme naturel, mais tout en ayant eu une nouvelle expérience, de nouvelles choses qu'il aura connues. Donc on voit aussi les idées d'Éden, peut-être aussi avec la connaissance, la pomme de la connaissance, enfin, sans faire d'analogie trop aventureuse. Et puis un autre conte qui est très intéressant, qui est bien fait, c'est le conte de Caramel ne veut pas déménager. Alors là, c'est la famille des hérissons. C'est un hérisson avec ses frères et sœurs et sa maman qui doivent partir pour hiberner. Et donc, ils ont une très jolie maison. Donc à la limite, ils ont déjà l'Éden. Mais ils doivent quand même trouver, on ne sait pas vraiment pourquoi, une autre maison pour passer l'hiver. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller, d'abord ils vont aller près de la forêt, ils vont voir cette grande forêt comme ça, désolé, je n'ai pas les images, mais très menaçante, qui leur fait très peur, et ils vont en fait pas oser y entrer. Après ils vont aller, ils vont dire « Ah, je ne suis jamais allé si loin dans la forêt ». Après ils vont aller un peu vers des forêts qui ont l'air un peu, c'est des forêts de résineux, en plus des forêts feuillues qui sont un peu plus intéressantes, mais même là ça leur fait peur. Petit à petit ils vont aller vers les haies, et là, dans les haies, ils vont se faire attaquer par notamment nouveau un renard, qui est un prédateur traditionnel des hérissons. Ils vont se retrouver en contact avec des tortues. Enfin, la place sera déjà prise. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'ils vont trouver un endroit où il y a une maison avec un arbre et une cabane à côté, et ils s'installent dans cette cabane. Et donc, ils trouvent en quelque sorte leur Éden. Et pour moi, ce conte, si on peut l'appeler comme ça, ça symbolise justement ce hérisson qui renonce à sa... qui renonce à une espèce de sauvagerie ou à la forêt, à une espèce de paradis perdu, si on peut dire, pour se civiliser, se socialiser au contact de l'homme et rester au contact de l'homme pour finir y trouver une relation symbiotique parce qu'il s'installe dans la petite cabane à côté. Donc pour juste prendre aussi les sources archéozoologiques et historiques, Ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant... Déjà, il y a très peu de sources sur le hérisson parce que c'est, en fait, sa carapace d'épine ne se conserve pas. Mais apparemment, Pline parle justement du fait que sa peau de piquant était utilisée pour les laines, pour faire des lainages en grattant ou en tirant les fibres, ce qui permettait de faire des fibres qui tiennent plus chaud, et que c'était apparemment quelque chose d'assez important à l'époque romaine. Donc on peut penser qu'il a été fortement chassé pour ça. Pline parle de monopoles qui étaient liés, enfin qui étaient dans certaines provinces. On peut penser qu'il a été très très chassé, voire peut-être même exterminé ou surchassé dans certaines régions. Aussi, l'idée qu'il porte des fruits sur ses épines et tout ce qui a suivi après, ça en fait effectivement un animal nuisible qui vole les fruits, ou également, ça c'est resté sur l'idée qu'il vole qu'il mange les œufs, les poussins, les poulets même. Donc ça, c'est une représentation qu'on trouve encore de nos jours dans les zones rurales, qu'il est plein de tiques, plein de puces, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, mais... Du coup, il a été beaucoup détruit pour ça. Et puis finalement, on remarque aussi qu'il y a très 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 peu de folklore, de choses de folklore, de contes autour du hérisson, alors que peut-être c'est une déformation personnelle, mais c'est un animal qui est très intéressant, qui a des individualités morphologiques extrêmement fortes, avec sa carapace d'épine, le fait de se mettre en boule, de ne pas fuir. Donc ça semble curieux qu'il n'ait pas plus inspiré que ça des contes. Donc pour moi, ça montre peut-être un fond culturel qui indiquerait que le hérisson était relativement peu en contact avec les gens, que c'est un animal méconnu, et pas seulement parce qu'on ne le voyait pas, mais peut-être parce qu'il s'éloignait beaucoup plus de l'humain avant. Donc à partir de ça, j'ai pensé, enfin c'est une hypothèse, pas la grande hypothèse du siècle, mais l'idée d'un va-et-vient, c'est-à-dire qu'au lieu de voir l'hypothèse du dessous comme l'homme détruit la nature, donc le hérisson passe de la forêt au bocage, puis au jardin, ce qui est même à la limite le point de vue à peu près des scientifiques, l'idée que le hérisson a pu à des moments vivre effectivement dans la forêt, parce qu'il était beaucoup trop chassé au contact des humains, par exemple au temps des Romains, peut-être même au Moyen Âge, peut-être avant, après, ça dépend aussi des régions, et qui se rapproche dès que le risque est moindre. Et donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a il y a vraiment une quasi-fuite des populations vers les zones périurbaines qui se manifestent de jour, enfin d'année en année, au point où on en a conclu, des études concluent de nos jours qu'il y a un risque d'extinction de l'animal. Mais peut-être c'est vraiment une relocalisation de l'espèce vers ces zones proches de l'humain. Donc là, c'est pour montrer c'est très schématique, mais c'est l'importance de l'habitat. C'est un des composants de la représentation sociale d'un animal, d'une espèce ici. Beaucoup, par exemple, la nourriture est très importante dans la représentation qu'on a de l'animal, qu'est-ce qu'il mange, etc. Donc mon idée aussi, c'est que la question de la forêt, est-ce que le hérisson vit ou pas dans la forêt, c'est seulement une partie de la représentation sociale du hérisson, et que, pour reprendre ce que dit Isamel Mauss, avec l'idée que l'animal donne ses caractéristiques à l'espace, et vice-versa d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, on peut penser que la façon dont le hérisson vit dans la forêt, entre guillemets, ou vit avec la forêt, ça montre plus le discours sur la... Enfin, ça peut montrer le discours qu'on a sur la forêt, la place de la forêt. Donc, ce que je mets, c'est comme les forêts avec les ours ou les loups, les forêts comme on connaît de l'époque, etc., avec l'idée vraiment de forêt, forest, etc., à l'extérieur, avec les bêtes sauvages, la forêt sauvage, ensuite les bois avec les animaux mignons, les cerfs, le Blanche-Neige, les contes de fées, et puis tout ce qu'on peut voir justement comme autre type de forêt un peu plus précis, les jungles, même les jungles de dinosaures, comme je mets, ou les forêts de montagne, les forêts rewildées. Et puis en guise de conclusion, mon idée c'est qu'il y a peut-être la naissance d'un nouveau hérisson. Donc les hérissons modernes n'ont plus besoin de se cacher de l'homme. Ils n'ont plus besoin d'être dans la forêt comme les autres animaux sauvages où ils se cachent, entre guillemets. Ils n'appartiennent plus à la forêt. Ils deviennent plus civilisés, ils entrent dans l'espace humain humanisé du jardin. Et les humains peuvent travailler à créer un nouvel Éden sur Terre, notamment au moyen de leur action dans le jardin. C'est un thème qu'on retrouve pas mal dans ce domaine. Et ça remplace cette espèce d'ancien Éden de la forêt ou rural. Et je pense qu'effectivement, il y a des impacts majeurs sur la génétique, sur les dynamiques des populations et des implications importantes en matière de conservation avec ce nouvel animal qui va vivre dans le jardin et plus du tout dans la forêt et qui vit donc vraiment au contact de l'homme. Voilà, merci.